Notre Dieu, nous nous approchons de toi et nous voulons le faire avec le respect qui t'est dû. Nous te remercions pour ces instants que tu nous as accordés. Merci pour ce temps de prière. Nous avons pu porter les fardeaux les uns des autres et nous voulons maintenant ouvrir ta parole et nous laisser guider par ton Esprit Saint. Nous te prions que tu disposes nos cœurs. Et que tu nous parles à travers ta parole, que tu nous façonnes et que tu nous donnes des cœurs obéissants, imitant ta parole en pratique. Te demandons ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Ah, très bien, j'ai des petits papiers pour vous aujourd'hui, parce que je me suis dit, il ne faut pas que vous dormiez. Alors, il ne faut pas que je vous donne mon... Je fasse attention aussi parce que voilà, donc j'aurais besoin d'une aide pour distribuer. Normalement, c'est une feuille par personne. Ça va, on va voir. Si tu trouves les notes de mon message, tu me donnes. Hein. Normalement, non, mais bon. Je crois que j'ai tout mélangé là. Voilà. Très bien, donc je vous invite à lire dans Romains chapitre 6. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Romains chapitre 6. Donc on va lire à partir du verset, on ne va pas tout relire hein, puisque vous avez déjà lu, Romains chapitre 6. Alors on continue notre série d'études sur la sainteté. Le thème que nous poursuivons, c'est ce que la parole dit, vous serez saints car je suis saint. C'est Dieu qui dit cela, qui nous commande d'être saints parce que lui... Il est saint. Si tu restes une feuille, tu peux m'en donner une. Si tu en restes une, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. C'est juste que je puisse suivre vos questions en même temps. Merci beaucoup. Alors, c'est qu'un support. Hein. J'ai pas fait relire à ma femme, donc il y a peut-être plein de fautes qui sont encore là-dessus. Donc vous me pardonnerez. Mais c'est juste un support, donc vous pouvez griffonner, vous pouvez écrire sur votre propre carnet si vous voulez. Romains chapitre 6. Alors, dans Romains chapitre 6, le chapitre 6 traite de la réalité concernant l'union des croyants avec Christ. Hein. Et l'apôtre Paul insiste particulièrement sur le fait que le croyant uni à Christ, il est affranchi du péché. Et il leur lance un appel... Il les exhorte à vivre d'une manière conforme à ce qu'ils sont en Christ. Et verset 3 à 4, par exemple, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est en Jésus-Christ que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Puis après, il va parler beaucoup du fait que l'on est mort au péché et toutes ces choses. Et nous voulons considérer un peu sous le thème de la sainteté, parce qu'il parle de la sainteté au verset 19. Il dit, par exemple, je lis la deuxième partie du verset 19, « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté pour arriver à l'iniquité, Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Ça, c'est au verset 19. Puis au verset 21, il dit, « Quel fruit portiez-vous ?» Il dit, « Lorsque vous étiez esclaves, verset 20, vous étiez libres à l'égard de la justice, verset 21, « Quel fruit portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. car c'est la fin de ces choses, c'est la mort. Mais, verset 22, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, il, dans ce qu'il est en train de dire concernant l'union du croyant avec Christ, et puis le rapport du croyant au péché, eh bien, il a en vue la sainteté. Il parle beaucoup de la sainteté. Alors, j'ai intitulé cette étude « Développer les habitudes de sainteté ». Alors, juste, vous allez, on va commencer avec deux questions préliminaires. Donc, si on s'appuie sur les versets, par exemple 17 à 22, on va y dresser un tableau comparatif entre l'homme avant son union avec Christ et puis l'homme uni à Christ. Donc c'est à vous de noter donc dans les deux cases ici tout ce que vous voyez concernant l'homme ou que vous soit de manière explicite soit de manière implicite ce que vous voyez concernant l'homme sans Christ et puis de l'autre côté l'homme uni à Christ. Je vous donne quelques minutes pour écrire ça. Essayez de voir entre les versets 17 et 22. On va pas regarder tout mais juste les versets 17 et 22. Qu'est-ce qu'on peut noter concernant l'homme sans Christ et l'homme uni à Christ? Comment ils sont caractérisés? Je ramasse après. Ça va? C'est fini? Je vois des feuilles blanches là, hein. C'est pas bon signe ça. Donc vous mettez comme ça vient, hein, c'est pas hein, voilà ce que vous voyez. On y va, on essaye, même si vous n'avez pas terminé, c'est pas grave. Hein, on va faire ensemble un peu. C'est juste pour vous faire démarrer. Est-ce que vous avez trouvé des choses Alors, on fait un tableau comparé. Par exemple, pour l'homme sans Christ, qu'est-ce qu'on trouve ici? Voilà, ça c'est la première chose. Esclave du péché, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Faiblesse de la chair, ouais, on peut dire comme ça, oui. Libre à l'égard de la justice, d'accord? On trouve ça. Des fruits dont on rougit. Donc, comme fruit, la honte, on pourrait dire un peu, oui. D'autres choses? Des membres livrés au péché, d'accord? Très bien. Et puis, voilà. Comme fin, il dit là, la mort. Ok. C'est pas mal. Moi, j'ai pas plus que ça, donc, vous pouvez trouver plus. C'est bien, très bien. Et pour l'homme uni à Christ? L'obéissance, d'accord? À la parole qui conduit à la justice, très bien. Affranchi du péché, esclave de la justice, le fruit de la sainteté, libre à l'égard de, pas de la justice, du péché. Ça, c'est l'homme sans Christ qui est libre à l'égard de la justice. C'est dans l'autre case. Et pas dans la bonne case, ma sœur. Et puis, il y a une chose, la fin, oui, quelqu'un dit la fin, la vie éternelle. Alors, si vous regardez bien, c'est quand même assez c'est parallèle. Hein? Il y a esclave du péché, esclave de la justice. Membre livré à l'impureté, membre livré à la justice. Libre à l'égard de la justice, d'un côté, et affranchi du péché. Il y a aussi instruit dans la doctrine, hein, pour ceux qui sont unis à Christ. Et puis, d'un côté, pour fruit, la honte. De l'autre côté, pour fruit, la sainteté. Fruit, la sainteté. Après, pour l'homme sans Christ, la fin, c'est la mort. Et puis, pour l'homme uni à Christ, la fin, c'est la vie éternelle. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul établit un contraste quand même. On peut le voir assez facilement. Mais quelles sont les similitudes? Là, je fais une deuxième question, la question B ici. Quelles sont quand vous regardez ce tableau, les similitudes et les différences entre ces deux états? Ils sont tous les deux. Donc, on va prendre les similitudes. Donc, similitudes, tous les deux esclaves, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme autre... Est-ce qu'il y a d'autres similitudes? Ils sont libres à l'égard de quelque chose. Très bien. Esclaves et en même temps libres à l'égard de quelque chose, d'accord. Oui, mais pas les deux, ça c'est pas la même chose. C'est-à-dire il y a un qui a cela et l'autre ne l'a pas. Ça va être les différences après. Là on regarde que la partie les mêmes choses, les choses qui sont. Oui, chacun a, il y a une fin, d'accord. Il y a un fruit, on pourrait dire, hein, tout cela. Donc c'est pas la même chose. Alors surtout, c'est surtout le fait que tous les deux sont des esclaves. Hein, ça c'est une vraie similitude. Deuxième chose que vous n'avez pas souligné, tous les deux ont les membres livrés à quelque chose. Hein? Leurs membres sont livrés à quelque chose, esclaves de quelque chose. Mais il dit que les membres, voilà, ils ont livré les membres comme esclaves à quelque chose. Et quelles sont les choses qui sont différentes? Alors, ça c'était les similitudes, mais ce qui est différent. Voilà, c'est l'objet. Donc, on pourrait dire c'est quasiment les mêmes choses dans les deux cas, mais à chaque fois, c'est la finalité qui est différente, l'objet qui est différent. Donc, pour un, c'est la sainteté, la vie éternelle, l'obéissance à la parole, l'affranchissement du péché, et pour l'autre, c'est le contraire de toutes ces choses-là. On pourrait dire que c'est les mêmes choses, mais les objets sont différents. Donc ça c'est bien. Donc on voit ici. Donc ça c'est les deux premières questions que je voulais vous poser ici. L'apôtre Paul ici, hein, il établit donc ce contraste, hein, entre ceux qui sont unis à Christ et ceux qui sont pas unis à Christ. Et en fait, ce sont des êtres avec les mêmes, on pourrait dire, les mêmes traits. Leur cœur est incliné. Tous les deux sont inclinés vers quelque chose. Mais l'un, pour l'un, ça va être le péché. Pour l'autre, ça va être la justice. Pour l'un, ça va aboutir à l'iniquité, pour l'autre, ça va aboutir à la sainteté. Pour l'un, ça sera la mort, et pour l'autre, ça sera la vie éternelle. Mais les deux sont esclaves de, les deux ont leurs membres qui se livrent, qui s'engagent à quelque chose. Alors, le deuxième point ici, c'est celui-ci. C'est quand on lit ce que Paul dit ici, on voit que les progrès dans la sainteté, parce que c'est ce dont il parle, impliquent vraiment la soumission des membres à la pratique des actes de justice. Alors, les actes de justice, c'est vraiment faire ce qui est droit, ce qui est juste, avec les membres, avec les mains, les yeux, la langue, les pieds, le corps. Hein. C'est ça qu'il dit ainsi. Hein. Il dit au verset 19, par exemple, « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, mais maintenant... livrer vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, comment Paul exhorte-t-il les croyants à la pratique de la justice ici au verset, ou de la sainteté, j'ai mis, au verset 19. Il dit, on va les mettre dans les trous après, mais de même que vous avez fait quoi? Que vous avez livré vos membres comme esclaves pour la justice, pour l'impureté. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves pour la justice. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? De même que, ça dit quoi? Avec, comment est-ce qu'ils doivent livrer leurs membres pour la justice? Avec la même croix, on pourrait dire. Quand il dit, comment vous comprenez? Quand il dit, de même que vous avez livré vos membres pour un objet, de même, livrez vos membres, mais pour un autre objet. Le de même contient quoi? Qu'est-ce qu'il contient, ce de même, là, ici? Oui? La même? Corps, oui, on pourrait dire ça. Même ferveur, voilà, même ferveur. Le terme livré ici, c'est vraiment, c'est comme esclave, donc c'est se donner, hein. Je pensais à la même énergie, la même ferveur, la même force, la même confiance. C'est-à-dire, vous vous êtes vraiment donné. Quand un homme ne connaît pas Christ, la Bible dit qu'il se donne vraiment au péché. Il est livré au péché. D'accord? Il est esclave du péché. Et est-ce qu'il aime ça? Oui, il aime ça, c'est ce qu'il recherche. Il se donne à cela. Et ici, il dit, de même que vous vous êtes donné quand vous étiez pas à Christ, à tout ce qui est mauvais, vous avez amené vos pieds par ici, vos bras par là, vous avez regardé ceci, vous avez cherché à regarder cela, vous avez cherché à aller ici, vous avez cherché à vous exprimer de cette manière-là, vous avez mobilisé vos membres pour agir de cette manière spécifique. Il dit, de même que vous êtes maintenant à Christ, eh bien, avec cette même énergie, cherchez à offrir vos yeux ici, amener vos pieds là-bas, vos mains par ici, votre pensée ici. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il dit, voilà, donnez-vous avec la même énergie. Alors, le petit i que j'ai mis ici, c'est avec la même, j'avais pensé la même, on pourrait dire ferveur, hein, comme a dit Daryl, mais la même énergie qu'ils ont mis à commettre l'iniquité, hein. Donc ici, comment est-ce qu'il demande, il exhorte les croyants à pratiquer, à la pratique de la sainteté? Eh bien, avec la même énergie qu'ils ont mis à commettre l'iniquité. C'est ça qu'il dit. De même que vous avez fait ça, vous êtes livré. Voyez, il dit, de même que vous avez livré vos membres, il dit pas, essayez d'utiliser vos membres pour la justice. Non, il dit, vous avez livré ici, et bien là, vous livrez aussi. Pareil. D'accord? Toute l'énergie que vous aviez utilisée par là-bas, avant, eh bien, vous l'utilisez pour la pratique avec vos membres de la sainteté ici. Donc livrer ici, hein, c'est se donner, je vous ai dit, c'est être là, le sens être là, être présent, vraiment apporter son corps à, on pourrait dire ça de cette manière-là. Donc dans son état sans Christ, l'homme il développe beaucoup d'habitudes à faire le mal avec ses mots, avec ses membres, etc. Il s'abandonne complètement, ses membres, ses mains, ses pieds, ses yeux, sa langue, pour faire ce qui est mal. Et c'est ça qui le caractérise, hein, quand il est un non-croyant. Et le péché, hein, se manifeste vraiment dans les actes que nous avons. Quand on dit que quelqu'un pêche, c'est parce qu'il commet des actes de péché. Eh bien, Paul dit ici, c'est avec cette même manière qu'on doit offrir son corps, ses membres, pour servir Christ. Colossiens 1:21 dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Donc, il qualifie vraiment ceux qui ne connaissent pas Dieu par leurs mauvaises pensées, mais aussi leurs mauvaises œuvres. Il ne faut pas oublier que c'est dans nos membres que le péché se manifeste. Et c'est dans les membres aussi que la justice, la pratique de la justice, la vie nouvelle doit se manifester aussi. Pas simplement dans la pensée, mais aussi dans les membres, dans tout ce que l'on fait ici. Alors, donc le chrétien, lui aussi, donc il est amené à livrer, comme je vous le disais, ses membres comme esclaves de la justice. Point C ici. Donc ça, c'était le point B qu'on a vu. L'engagement de tous nos membres hein, au service. Et deuxième chose qu'on pourrait souligner dans ce que Paul dit dans le verset 19, et on regarde spécifiquement le verset 19 hein, du chapitre 6 ici. Il dit que les habitudes de sainteté produisent la croissance dans la sainteté. Hein. Les habitudes de sainteté produisent la croissance dans la sainteté. Il dit, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté pour arriver à l'iniquité. Il dit maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Vous voyez, il y a tout un parallélisme dans son verset. Il dit, voilà, avant, vous livrez vos membres pour le péché et ça aboutissait à l'iniquité. Maintenant, vous allez livrer vos membres pour pratiquer ce qui est juste, ce qui est droit, et cela va avoir pour effet d'aboutir à la sainteté. Donc, il dit quoi? Comment il montre que les habitudes de sainteté produisent la croissance dans la sainteté? Les habitudes de sainteté produisent la croissance dans la sainteté. Il montre d'abord que la pratique du péché conduit à quoi? À plus de péché. Ou on pourrait dire à la croissance dans le péché. On pourrait dire ça, hein. La pratique du péché conduit à plus de péché ou à la croissance hein, dans le péché. Plus on pratique, d'accord, plus on pratique le péché avec ses membres hein, extérieurement, et plus on est enclin intérieurement à pécher. Plus on pratique le péché avec ses membres, et plus on s'habitue à pécher. Et plus on est disposé à pécher. C'est un principe, c'est ce que l'apôtre Paul exprime ici. Il dit, vous avez offert vos membres comme esclaves de l'impureté, de l'iniquité, pour faire quoi? Pour commettre l'iniquité. Plus on pêche, et plus on s'habitue à pécher, et plus on est disposé à pécher. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que nous retenions. Ceux qui avaient étudié le livre de John Owen, le puritain, là, il avait écrit ceci. Il dit des actes, je vous ai mis ça sous le papier, non? Je l'ai pas mis. Voilà. Des actes répétés de consentement de la volonté au péché peuvent engendrer une disposition et une inclination de cette volonté allant jusqu'à l'empressement à pécher à la moindre sollicitation. C'est-à-dire, quand on a habitué les membres à pécher, à aller à tel endroit, à faire ceci, à regarder cela, à parler d'une certaine manière, etc., il dit, on a développé on a renforcé l'habitude de pécher, et ce qui se passe, c'est que à la moindre sollicitation à pécher, on est disposé. On est beaucoup plus disposé à péché, parce qu'on a déjà habitué, on s'est habitué, on a développé une habitude à pécher. C'est comme quelqu'un qui emploie des gros mots quand il parle. Hein. Au début, bah, pas beaucoup, et puis quand il s'habitue à en employer, il emploie beaucoup de gros mots, et puis après, dans toutes ses phrases, il n'y a pratiquement que des gros mots. Le moindre truc, hop, ce qui sort, c'est un gros mot. Il est habitué à cela. Et on peut trouver ce principe dans beaucoup d'autres domaines. Chaque péché que l'on commet renforce l'habitude de pécher. Et il devient à ce moment-là plus facile de succomber à cause de l'habitude que l'on a développée. Si vous abandonnez doucement la lecture de la Bible, par exemple, vous allez finir par vous habituer à ne pas lire la Bible. Et plus vous allez vous habituer à ne pas lire la Bible, et moins vous aurez envie de la lire. Et le jour où vous la prendrez pour la lire, le moindre truc que vous entendez à côté, la sonnerie du téléphone, n'importe quoi, une pensée, hop, vous allez la refermer, c'est fini. On n'a pas envie, un rien va nous déconcentrer pour lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aura pris l'habitude de ne pas lire la parole de Dieu. Si vous développez l'habitude de ne pas venir au culte, hein, quand vous êtes fatigué, je suis fatigué, je ne veux pas aller au culte, par exemple. Okay. Eh bien, dimanche d'après, bon, je suis fatigué, je ne vais pas aller. Et puis dimanche d'après, vous y allez. Et puis après, vous commencez à pas venir. Eh bien, après cela, rien ne vous empêchera pas de venir au culte. Pour rien, vous allez dire, bon, il pleut, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que simplement, C'est pas parce qu'il pleut qu'on ne vient pas. C'est parce qu'on a développé l'habitude de ne pas venir que l'on ne vient pas. Okay. Quand on développe l'habitude de ne pas travailler, on ne travaille pas. On ne travaille pas. Quand on développe l'habitude de ne pas se lever tôt, on ne se lève pas tôt. C'est impossible. Mais, d'accord, donc, et c'est valable pour tous les domaines. L'habitude renforce la prédisposition à faire quelque chose. L'habitude de dormir renforce la prédisposition à dormir. L'habitude de ne pas travailler, de mentir, renforce la prédisposition à mentir. C'est ce que Paul dit ici. Donc il dit, vous avez livré vos membres pour aboutir encore à plus d'iniquité. Et il dit cela pour mettre ça en contraste avec ce que doit être la vie du croyant ici. Il dit donc, mais maintenant, il dit, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Donc il dit en parallèle, de même que l'habitude à pécher, d'accord, produit encore plus de péchés, eh bien il dit que l'habitude, quand on développe l'habitude à pratiquer avec ses membres la justice, cela produit la sainteté. Donc c'est le deuxième point ici, la pratique des actes de sainteté produit, on pourrait dire plus, ou une croissance, comme aurait dit Daryl, hein, croissance de la sainteté, produit plus de sainteté. Donc le point de Paul ici, c'est de dire que le principe de croissance par l'habitude, il marche dans le mauvais sens, si vous voulez, pour ce qui est mal, mais il marche aussi pour ce qui est bien. Et c'est pour cela qu'il faut développer la pratique des actes de justice, des choses droites avec ses membres et livrer ses membres comme esclaves de la justice pour pouvoir arriver à la sainteté. Donc les membres extérieurs doivent se donner à ces actes de justice. Et le problème que l'on rencontre souvent, c'est que l'on entend dire « j'attends d'avoir de bonnes dispositions de cœur pour faire quelque chose ». On dit que ça ne sert à rien d'aller au culte, par exemple, si le cœur n'y est pas. Je vais être hypocrite si je fais ça. Je vais faire semblant d'être là, de venir alors que mon cœur n'y a pas. Je préfère avoir une bonne disposition de cœur pour y aller. Okay? Ça c'est l'évangile selon nous. Mais c'est pas ça que l'écriture dit ici. On voit ici que on doit apprendre, l'enfant de Dieu doit apprendre à pratiquer avec ses membres ce qui est bien. Et quand on pratique ce qui est bien, on crée, on développe des dispositions, de bonnes dispositions. Des gens disent parfois, à quoi bon manifester un geste d'amour envers quelqu'un si le sentiment n'est pas là? C'est hypocrite de faire semblant d'aimer en faisant des choses alors que dans le cœur, je n'aime pas. Je devrais d'abord travailler ma disposition, chercher à avoir des sentiments, et puis ensuite accomplir les actes d'amour. Mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. Et quelqu'un disait dans un livre écrit sur le mariage, on a étudié ça avec quelques personnes ici, disait que les actes d'amour conduisent au sentiment d'amour. Dieu ne demande jamais dans la Bible d'avoir les sentiments d'amour avant d'aimer. Hein. Il dit, surtout quand il s'agit des ennemis. Jésus dit par exemple en Matthieu chapitre 5 verset 44, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien. » Ça c'est des actes. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et il y a un auteur, il faisait remarquer que pendant la guerre, lorsque les Allemands ont maltraité les Juifs, il disait certainement au début, ils ont commencé à maltraiter sans avoir forcément beaucoup de haine. Mais au fur et à mesure qu'on a maltraité, eh bien la haine a augmenté. La haine augmentant, les maltraitances ont augmenté. C'était un cercle vicieux. C'est les actes qui ont amené le sentiment profond. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si on commence par avoir des actes d'amour, on va voir qu'on finit par aimer. les gens. Et c'est pour ça que dans les couples, hein, les gens disent on ne s'aime plus. C'est pas vrai. Pourquoi? Alors, j'ai plus, je ne ressens plus rien. Et le problème, c'est que on ne fait rien avec ses mains, avec ses yeux, avec ses pieds. On ne fait pas des choses qui manifestent l'amour. Mais si on pose des actes d'amour, les sentiments d'amour vont suivre. C'est pour ça que Jésus dit priez pour ceux qui vous maltraitent. Quand on prie vraiment pour quelqu'un, profondément, qu'on mène cette personne devant le trône de la grâce de Dieu, ce serait étrange qu'on ne finisse pas par aimer cette personne. Ce serait étrange. Et les gens avec qui on a affaire, ce ne sont pas nos ennemis en général. Hein. Jésus va très loin quand il parle des ennemis. Mais la plupart du temps, c'est notre conjoint, nos enfants, nos collègues, donc des gens avec nos frères et sœurs dans l'église. D'accord? Ce ne sont pas des ennemis. Donc si ça marche là déjà, imaginez ce que ça peut donner pour quelqu'un avec qui on a, voilà, un petit accrochage. Si on prie, on manifeste des attitudes d'amour à l'égard de cette personne, eh bien on va finir par avoir de véritables sentiments profonds d'affection et d'amour dans notre cœur. Et c'est pour cela ici qu'on peut dire que la pratique des actes de sainteté conduit à la sainteté. La sainteté, la pratique extérieure, si vous voulez, on pourrait dire ça ainsi, la pratique extérieure, ce que j'ai mis en bas, aide à la disposition intérieure. Donc si on veut être disposé à la sainteté, chers frères et sœurs, il faut développer des attitudes de sainteté. Il faut que nos mains, nos pieds, nos yeux, notre langue pratiquent la sainteté. Alors moi, ma question maintenant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de pratiquer des actes de sainteté? Ou dans quel domaine pouvons-nous pratiquer des actes de sainteté? Qu'est-ce que nous pouvons poser? Est-ce qu'on a des exemples de choses que l'on peut faire et qui sont des actes de sainteté que l'on doit apprendre à développer, dont on doit développer l'habitude si on veut croître dans la sainteté? Je vous laisse, je fais comme Daryl, à vous la parole. Est-ce que vous avez des idées, des choses qu'on pourrait... Simple, hein? Pour lesquelles il faut développer des habitudes. La prière. D'accord? Prendre le temps de la prière. C'est très difficile, hein? Pas si c'est peut-être facile pour vous. Je trouve que c'est difficile. Trouver le temps que l'on met à part pour prier. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais prier régulièrement, de manière méthodique, développer cette habitude de la prière est... quelque chose qui aide à la croissance dans la sainteté. Autre chose. Là, la lecture de la parole de Dieu. Hein? C'est important. Lire régulièrement la parole de Dieu, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. L'enfant de Dieu a besoin de se nourrir. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il doit le faire tous les jours pour développer l'habitude. Si on ne lit pas, on prend l'habitude de ne pas, eh bien, on ne va pas. Ok? C'est ça le principe qu'on est en train de voir ici. L'habitude, quand on renforce l'habitude, on prédispose le cœur à faire la chose. Donc, quand on prend l'habitude de lire, on prédispose notre cœur à lire la parole de Dieu. Donc, ça, c'est une chose. Quelle autre chose? La communion des frères et sœurs. Si on prend l'habitude de se débrouiller tout seul, voilà, on ne vient pas au culte, aux réunions, eh bien, ça ne va pas nous manquer. Il ne faut pas croire que ça va nous manquer. Hein. Au contraire, hein, on peut même se sentir très bien, comme ça ne nous manquera pas de ne pas lire la Bible. Hein. Si on prend l'habitude de ne pas lire la parole de Dieu, au bout d'un moment, ça ne nous manquera pas de ne pas la lire. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Oh, ça me manque de lire la Bible, j'arrive pas à la lire, mais ça me manque beaucoup. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas lu, mais ça me manque. » Non, ça va, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc, c'est il faut vraiment développer l'habitude pour que on puisse être prédisposé. Enfin, donc la communion des saints. Oui, quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, la louange. Hein, prendre l'habitude de louer Dieu, remercier Dieu, être reconnaissant pour tout ce qu'il nous accorde chaque jour. C'est quelque chose que l'on doit faire, même quand c'est difficile. Sinon, bien le cœur ne sera pas prédisposé à louer Dieu. Puis il y a des choses tout à fait pratiques aussi, hein, que l'on peut faire, se discipliner, hein, se lever pour faire les choses. Si on veut lire la parole de Dieu et qu'on doit partir au travail, ben si on ne se lève pas avant pour le faire, ben
on ne pourra pas le faire. Donc, il faudra aussi prendre l'habitude de se lever pour faire les choses. C'est une habitude qu'il faut prendre. Il faut demander au Seigneur la grâce, mais il faut développer cette habitude. Si on ne la fait pas, on ne sera pas prédisposé à se lever. D'accord? Les gens qui le font, c'est les gens qui ont pris l'habitude de le faire, qui ont développé l'habitude de le faire. Donc, on pourrait ajouter ainsi plein d'autres choses, hein. Peut-être, nous avons des choses qui nous sont propres, hein, que le Seigneur peut nous montrer. Mais on a besoin, en tout cas, de pratiquer avec notre corps ce qui est bien. De ne pas faire ce qui est mauvais, okay, mais de remplacer par ce qui est bien. Apprendre à dire la vérité. Prendre l'habitude de dire la vérité. Ne pas mentir. Ça peut être une habitude qu'on développe de manière insidieuse, hein, pour se débrouiller, par-ci, par-là, on glisse un petit mensonge, tout léger. Si on prend cette habitude, on le fera après. Maintenant, il faut prendre l'habitude, l'apôtre Paul dit, de parler selon la vérité. Toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité. Toujours dire la vérité. Et ça va devenir aussi une habitude qui va nous prédisposer à dire la vérité. Alors, bien sûr, tout cela, c'est le Seigneur qui le fait, mais on voit ici que l'apôtre Paul dit que le croyant doit lui-même livrer ses membres dans cette pratique de la sainteté, s'il veut parvenir à la sainteté. D'accord? Alors, dernière petite question ici en dessous. Comment parvenir à de telles, et il manque un S à habitude, hein, ici. Comment parvenir, ah non, vous l'avez le S, moi je l'ai pas sur ma feuille. J'ai corrigé la vôtre, pas la mienne. Comment parvenir à de telles habitudes? Alors, premièrement, Paul dit un certain nombre de choses dans les versets précédents. Donc, il faut réaliser ce que nous avons en Jésus-Christ. Donc, le premier mot ici, c'est réaliser ce que nous avons en Jésus-Christ. Paul dit, vous êtes mort au péché, verset 2. Que votre vieil homme a été crucifié, verset 6. Il dit que le péché n'a point de pouvoir sur votre corps mortel. Il dit que vous êtes, verset 14, vous êtes affranchi du péché. D'accord. Donc, il dit toutes ces choses. Et donc, le croyant doit méditer vraiment toutes ces réalités. C'est ce que Paul amène à faire au chapitre 6. Hein. Il dit, ne savez-vous, chapitre 6, verset 1, déjà, il dit, que dirons-nous donc, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous, hein. Donc, faut pas ignorer ces choses. Il faut les méditer, les retenir. Voilà ce que Christ a fait. Nous avons été crucifiés avec Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ, verset 4. Avec lui par le baptême en sa mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ça, c'est une réalité que l'on doit intégrer. Et nous avons un nouveau maître. C'est Dieu, c'est Christ qui est notre maître. Et c'est à lui que nous devons obéir. C'est pour cela qu'il dit au verset 12, il dit, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, il est possible pour le croyant de ne pas obéir aux convoitises du péché puisque la Bible nous commande de ne pas obéir aux convoitises du péché. Celui qui est un enfant de Dieu, uni à Christ, qui a été crucifié avec Christ, a la possibilité de s'éloigner du péché. Alors, bien sûr, la réalité, c'est que nous chutons et que nous tombons. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on chute et on tombe? On vient vers le Seigneur, on se repent et on demande à Dieu la grâce de nous détourner de notre péché. Mais nous devons savoir que nous ne sommes plus esclaves du péché. Le non-croyant est esclave du péché. Il ne peut pas dire cela, je ne suis plus esclave du péché. Il se livre, ses membres sont livrés au péché. Le croyant, uni à Christ, doit livrer ses membres à la justice, à la pratique du bien, parce qu'il n'est plus esclave du péché. Il a été crucifié, il est mort avec Christ, ressuscité avec Christ. D'accord? Et Paul dit, retenez cette réalité-là, et en fait, il dit, vivez conformément à cette réalité-là. C'est le deuxième point ici, hein. Il faut donc conformer nos actes, deuxièmement, conformer nos actes à ces réalités. Verset Romains 6, j'ai mis Romains 6, 11, 12, dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme, comment? Mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, et que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Autrement dit, il faut se conformer au fait que nous sommes morts avec Christ. C'est une réalité, et on doit vivre, pratiquer dans nos membres des choses, la justice, parce que nous avons la possibilité de vivre de cette manière-là. Et puis, dernier point, il faut rechercher aussi l'aide du Saint-Esprit. On peut pas, c'est pas par nous-mêmes que nous allons arriver à cela. Romains 8, verset 13, 14 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Donc nous avons besoin de venir à Christ, de demander l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à vivre une vie pratique avec nos membres, une vie de sainteté, développer des habitudes de sainteté. Par nous-mêmes, ça ne marchera pas. On a beau mettre en place des stratégies, d'accord, ça ne marche pas tout seul. Il faut les mettre en place, mais il faut aussi demander au Seigneur de nous aider à le faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a pas de choses magiques dans la vie chrétienne. C'est pas parce qu'on est un chrétien que on va marcher vers la sainteté automatiquement. Non. Il faut développer des habitudes de sainteté si on veut marcher dans la sainteté, si on veut vivre tel que Dieu nous le commande. Vivre dans la sainteté est un commandement de Dieu, mais nous ne marcherons jamais dans la sainteté à moins de développer des habitudes de sainteté et de t'offrir, de livrer nos membres, de les obliger à accomplir des actes de justice. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre cela et puis à vivre selon cette parole. Je relis encore le verset 19. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Et pas de sainteté si on n'accomplit pas, si on ne fait pas ces choses, et que le Seigneur nous aide. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole, et merci parce que tu nous as mis dans une position où tu nous déclares saints, tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Merci pour toutes ces choses et merci parce que ta divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance que nous avons de toi dans ta parole. Nous te prions que tu nous aides à vivre cette vie de sainteté à laquelle tu nous appelles. Et particulièrement, nous voulons ce soir te prier que tu nous aides à mettre en place ce qu'il faut pour livrer nos membres à des actes de sainteté, à nous habituer, Seigneur, à faire ce qui est droit, ce qui est saint dans tous les domaines de notre vie, à mettre en place ce qu'il faut pour croître dans cette sainteté et agir et pratiquer la justice. Seigneur, montre-nous ce dont il faut nous écarter, ce dont il faut détourner nos membres et ce vers quoi il faut les incliner. Et Seigneur, dispose nos cœurs vraiment à la crainte de ton nom. Nous te prions. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.